Ça y est, nous y sommes. La finale de Koh-Lanta a officiellement commencé. Nous avons droit à l'épreuve d'orientation. Bienvenue dans Autour du Feu, podcast hebdomadaire analysant chaque épisode de Koh-Lanta. Nous sommes donc à la finale de la nouvelle saison de Koh-Lanta, Ligue des Héros. Je suis Plancaster, avec moi Damien. Salut Damien.
Salut Plancaster. Moi, l'orientation, honnêtement, c'est une de mes épreuves préférées de Koh-Lanta. Je pense qu'il y a à la fois du drama, c'est très télégénique. Et autant les poteaux, bon, c'est mythique, mais en tant que spectateur, c'est un peu plus ennuyé. L'orientation, pour moi, c'est vraiment la grosse épreuve de Koh-Lanta, de la finale de Koh-Lanta. Donc, j'étais très content de pouvoir la voir vendredi soir et de pouvoir la débriefer aujourd'hui.
Avec nous également Freeze. Salut Freeze.
Bonjour.
Avec nous également pour cet épisode, Gino. Salut Gino.
Bonjour Plancaster, bonjour à tous, et je suis totalement d'accord avec Damien, l'orientation, c'est la vie.
Et enfin, avec nous, quelqu'un qui a gagné l'orientation au cours de sa deuxième saison. Il a été tout d'abord au casting de L'Île au Trésor, où il avait fini au 8e, pardon. Et il a également fait le combat des héros, cette fois-ci, il avait perdu après les poteaux. Je vous demande d'accueillir Jérémy. Salut Jérémy.
Eh ben salut à tous et merci pour l'accueil. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui.
Pareillement. Nous avons dessiné trois sujets pour cet épisode. Le premier nous sera présenté par Gino, qui va nous parler de l'épreuve d'orientation en général. L'influence de cette épreuve dans le gameplay, le fait que ce soit une épreuve assez télégénique, tout ça, tout ça. La parole sera ensuite donnée à Damien qui nous parlera du montage et un petit bilan sur les aventures des perdants malheureux de l'orientation, à savoir Moussa et Alex. Et enfin, Freeze terminera avec les points forts et les points faibles des trois finalistes. Et dans tous ces sujets-là, nous donnerons la parole à Jérémy et aux autres intervenants qui pourront dire ce qu'ils pensent de ces sujets-là. On peut commencer. Et on va commencer avec ce qui a été la principale activité de l'épisode, l'orientation, l'épreuve mythique des règles immuables de Koh-Lanta. Qu'est-ce que l'épreuve d'orientation? Comment ça influence le jeu? Comment l'épreuve est-elle montée? C'est le sujet que va nous présenter Gino. C'est à toi.
Très bien. Bon, je préviens à tout le monde, ça risque d'être un peu long.
Comme l'épreuve.
Alors.
C'est ça.
En effet. Donc voilà. Donc en fait, l'orientation, je voulais principalement parler de sa popularité. Et en parlant de sa popularité, je parlerai bien entendu des autres aspects qu'on va évoquer. Donc en fait, l'orientation, ce n'est pas un mystère, c'est populaire chez beaucoup de fans. Et beaucoup de fans, quand je dis beaucoup de fans, c'est on parle des fans mainstream, c'est-à-dire ceux qui parlent beaucoup du mérite sportif, mais aussi de fans plus adeptes de la stratégie qu'on, on va être honnête, qu'on voit beaucoup plus à ADF. Alors que les fans pro-stratégie, d'habitude, ils n'aiment pas vraiment les épreuves, je veux dire. Je vais m'inclure là-dedans, c'est qu'en temps normal, quand il y a une épreuve, je regarde beaucoup plus le salon live sur le Discord d'ADF que l'épreuve en elle-même. Pourtant, l'orientation, j'adore. J'aime tellement cette épreuve que quand Plancaster m'a proposé d'intervenir sur ce podcast, c'est moi qui lui ai demandé de faire cette rubrique-là. Alors, il faut donc voir les raisons de cette popularité, que ce soit chez les fans pro-stratégie qu'on entend surtout sur ADF, ou chez les fans plus tenants du mérite sportif. Alors, on va d'abord dire un argument qui va beaucoup plus aux fans du mérite sportif, mais qui est incontournable, c'est que l'orientation, c'est une part de la mythologie de Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est un jeu qui se repose beaucoup sur sa symbolique que sur l'attrait de la victoire en lui-même. Même si il faut reconnaître que ce côté a été un peu atténué dans les saisons récentes, principalement celle depuis que Alexia Laroche-Joubert a repris le contrôle d'ALP, on a quand même parfois l'impression que les candidats sont plus excités par la perspective d'aller sur les poteaux, d'être le premier à faire le feu ou de ramener un totem pour le petit dernier. Ce n'est pas pour rien que Claude a été présenté par la production comme le champion des champions, alors qu'il n'a pas remporté de saison. Bah oui, il a fait 3 fois les poteaux, ce qui est une performance totalement inédite. On ne va pas trop s'y attarder sur cette mythologie parce qu'on pourrait presque faire un épisode entier dessus. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'elle est très populaire parce qu'elle est très pratique. Ça permet de présenter les candidats préférés de la production sous un jour autre que la quête de la victoire. La quête de la victoire, ça implique forcément de la stratégie, ça implique forcément des trahisons. Les éléments de la mythologie de Koh-Lanta sont beaucoup plus orientés sur le sport et la survie. Donc c'est une mythologie qui sonne doux aux oreilles des fans qui veulent voir une morale dans leur préférence de candidat. qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, le débat n'est pas celui-ci. Si le fonctionnement spécifique de l'orientation a beaucoup évolué par rapport à son introduction dans la saison 3, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne peut pas considérer que Moussa avait une expérience sur cette épreuve, l'idée reste la même, c'est un jeu éliminatoire, enfin, sauf sur la saison 4, juste avant l'immunité finale, basée sur l'orientation, et cette continuité, ça offre une légitimité historique qui tient beaucoup à une frange de téléspectateurs. D'ailleurs, sur l'historique de l'orientation, je vous invite à regarder l'article de Damien Mercereau sur Le Figaro TV, qui est parfait. Ceci étant dit, les poteaux ont une portée mythologique encore plus forte que l'orientation. C'est la dernière épreuve, elle est encore plus ancienne, avec une apparition de la saison 2, et pourtant c'est une épreuve qui fait moins l'unanimité. Donc, qui nous pousse à dire que la mythologie c'est bien, mais ça ne suffit pas à expliquer le succès de l'épreuve d'orientation dans toutes les parties de la fanbase. Alors d'abord, l'épreuve d'orientation, c'est un avantage indéniable. C'est qu'elle est génératrice de suspense. Et ça, c'est quelque chose qui plaît à la fois aux tenants du mérite sportif et aux tenants pro-stratégie. D'abord, elle est génératrice de suspense sur l'ensemble de la saison. C'est là qu'on va parler du gameplay. C'est que, a fortiori, sous sa forme à 5, elle augmente les chances qu'un candidat extérieur au groupe dominant puisse défendre ses couleurs en finale. C'est quand même nettement plus facile de faire top 3 de l'orientation. Enfin, je pense que Jérémy nous dira que c'est pas facile du tout.
Non,
puis,
c'est vrai.
Gagner les poteaux. Puis gagner les poteaux qu'enchaîner 2 ou 3 victoires comme ça serait le cas dans un format plus pur. Bah, par exemple, celui de Survivor qui fait quand même pas mal de buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. On peut regretter l'effet pervers sur les stratégies que constitue le fait de ne pas avoir le moment où le groupe majoritaire se déchire. C'est parce que la perspective de déchirement peut encourager à tenter des coups avec la minorité auparavant. Justement, on parlait de Survivor, ça arrive très souvent là-bas. Ceci étant dit, la contrepartie, c'est que le fait d'avoir une conscience de cette épreuve, ça a une portée stratégique en soi. Par exemple, l'année dernière, on a très bien vu que Cyril a été en grande partie ciblé à cause du fait que tout le monde présumait qu'il allait être fort sur l'orientation. Donc voilà, c'est un plus pour un moins. Ceci étant dit, je pense que sur le plan de la stratégie pure, j'ai plutôt l'impression que l'orientation est un moins. Mais pourtant, le fait que l'orientation soit un moins stratégique n'empêche pas les fans pro-stratégiques d'aimer l'orientation. Pourquoi ? Ben, c'est qu'il faut souligner que, déjà, dans une saison avec un groupe dominant qui est très désagréable, ce groupe peut très vite fatiguer le téléspectateur, quelle que soit son orientation sur qu'est-ce qu'il pense être un bon candidat de Koh-Lanta. Par exemple, je me souviens que, quand j'avais regardé la saison 8, j'étais à l'époque pro mérite sportif. Et je trouvais que le groupe dominant de la saison 8, ils avaient beau avoir beaucoup de mérite sportif, ils étaient d'une lourdeur absolue. Et quand il y a des groupes comme ça, le téléspectateur se dit que, mine de rien, ce format de finale, c'est le petit espoir qui finisse par se prendre un coup de Trafalgar au meilleur moment. Et ça se fait de manière tout à fait loyale, vu que le principe d'orientation est connu de tous. C'est pas comme si la production avait manipulé quelqu'un. D'ailleurs, même quand le groupe dominant n'est pas à proprement parler désagréable, on peut pas omettre que l'histoire de l'underdog qui monte au sommet, c'est une histoire qui parle à tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, quand on avait parlé ensemble du succès de l'idéologie du mérite, on a vu quand même que la prod avait quand même tendance à dresser des gentils des méchants, comme si on regardait du catch, quoi. Et disons que l'histoire de l'underdog, c'est une histoire de gentils et plus pure qui soit. À l'inverse, une saison caractéristique du vice de cette approche, c'est la saison 12. On a vu quand même la production se mettre en quatre pour forcer la présence d'un outsider dans l'épisode final. Entre le collier qui tombe au hasard au moment du binôme et le fait qu'on utilise pour la première fois l'orientation à 5 dans une saison sans revenant, on a quand même eu l'impression que tout était fait pour que Bernard soit dans cette finale. Et le problème, c'est que Bernard n'est pas un bon outsider. Tout le monde savait qu'il allait se faire rétamer soit sur l'orientation, soit sur les poteaux. Et du coup, ça donnait l'impression qu'on nous a privés d'un règlement de compte dans l'alliance majoritaire juste pour avoir ce moment-là. Même au-delà de cette question d'affection pour des candidats en particulier, il faut reconnaître que la présence d'un outsider dans la finale, c'est de nature à nous faire plus réfléchir sur les différents scénarios duel final devant le jury, puisque avec un gameplay standard, beaucoup de duels seraient totalement improbables. Alors que là, ils deviennent possibles, et ce sont parfois des duels qui appellent beaucoup de suspense. C'est une chose qui renforce l'excitation à l'approche de la finale, que ce soit pour les fans pro-strat ou pour les fans pro-mérite. Et ça, c'est une chose qui est vraiment parfaite du point de vue de la prod. Mais, bien entendu, le plus fort dans l'épreuve d'orientation, c'est pas ça. C'est pas sa mythologie, c'est pas son impact sur le jeu. C'est que l'épreuve en elle-même est géniale. Sur le plan théorique, c'est que l'orientation, c'est une des épreuves les plus complètes qui soit dans Koh-Lanta. C'est que, bien entendu, on peut parler des qualités propres dans cette épreuve, c'est-à-dire savoir bien manier les outils, avoir le sens de l'orientation, ça, je pense que ça n'appelle aucune autre observation. Mais c'est aussi une épreuve très psychologique. La durée peut énormément varier. Et c'est incroyablement frustrant pour un candidat. C'est pas pour rien qu'on les voit péter des câbles. C'est que quand on cherche quelque chose, au bout de quelques minutes, nous, on commence à s'agacer. Eux, on leur demande de faire ça pendant plus de 3 heures. Forcément, il y a quelqu'un qui va craquer. Et en craquant, on perd du temps, on réduit ses chances, on se repousse à plus craquer. Être fort psychologiquement, c'est un énorme avantage dans cette épreuve. Même si ce n'est pas aussi marqué que d'habitude, il y a quand même une petite dimension physique. C'est qu'on nous demande quand même d'avoir aux candidats d'avoir quand même une certaine résistance dans de telles conditions. C'est un avantage en termes de lucidité, puisque si jamais on alimente encore plus la psychose par le fait qu'on ne se sent pas bien physiquement, on entraîne un cercle vicieux, et aussi parce que, dans une moindre mesure, mais le fait d'avoir une bonne vitesse, ça peut être appréciable si jamais il y a des candidats qui sont proches dans d'autres domaines. Le fait de pouvoir sprinter plus vite vers la table, c'est un petit avantage, même si on a quand même souvent l'impression que ça ne se résume pas à grand-chose, mais le fait d'avoir cet avantage-là sur le papier, ça aide. Il y a aussi une dimension stratégique, avec la répartition des points de recherche. Et d'ailleurs, ça a mené à une grosse erreur de l'alliance majoritaire ce vendredi. Parce que Claude a réussi à les traîner par le bout du nez en les poussant à aller sur des repères qui ne sont pas le sien. Et comme ça, Claude a eu une marge énorme quand il a fait sa recherche. Alors, c'est très bien joué de la part de Claude, mais c'est aussi très mal joué de la part de l'alliance majoritaire. Et forcément, on a vu à Guinness ce vendredi, la chance aide aussi. Et c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup aider en termes de suspense. Et voilà, c'est que toute cette combinaison, ça fait que l'orientation est spéciale, vu que Koh-Lanta, c'est un jeu où on a quand même l'impression que beaucoup d'épreuves sont unidimensionnelles. C'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'épreuves qui portent uniquement sur la vitesse ou l'endurance. Et en soi, avoir un mécanisme à plusieurs dimensions, on aime Koh-Lanta parce que c'est un jeu à plusieurs dimensions. Donc, c'est un peu l'inception des épreuves de Koh-Lanta. Le mécanisme en soi est beaucoup plus fascinant. Ensuite, toujours en parlant de cette idée des jeux multidimensionnels, c'est que les jeux multidimensionnels ont l'avantage de générer beaucoup de suspense. Par exemple, quand on voit une épreuve traditionnelle basée sur la vitesse, il y a des jours où j'ai vraiment mal pour Denis. C'est-à-dire qu'il se retrouve obligé à vendre du suspense parce qu'il y a un candidat qui avait 120 mètres d'avance et qu'il n'y en a plus que 115. C'est un retournement incroyable. Non, sérieusement, quand Claude prend 100 mètres d'avance sur le parcours du combattant, on sait qu'il va gagner. C'est Claude, quoi. Par contre, quand on ajoute une phase complètement différente, tout est relancé. Par exemple, quand on met un puzzle ou quand on met un labyrinthe, on peut avoir un gros retournement de situation, vu qu'un candidat qui a pris plusieurs longueurs d'avance peut se planter sur la réflexion. Par exemple, on va reparler de Claude. Sur l'épreuve initiale des héros, il avait beaucoup galéré sur le labyrinthe et puis ça l'avait fait perdre alors qu'il était parfaitement au point physiquement. D'ailleurs, je pense que la production a en partie compris la chose puisqu'on voit occasionnellement des épreuves inspirées des versions étrangères se présenter et que les épreuves éliminatoires ne sont jamais totalement physiques, ce qui est quelque chose qu'on peut leur reconnaître qui est très bien. Mais pour le moment, j'ai quand même le sentiment que le boulot n'est fait qu'à moitié puisque on avait parlé de mythologie tout à l'heure, on n'ose pas toucher au classique de Koh-Lanta, et ça, c'est tellement dommage. Et bien entendu, ce qui est encore plus fort avec l'orientation, c'est que, non seulement c'est une épreuve qui génère du suspense, mais en plus, c'est une épreuve qui génère du suspense et qui est télégénique. C'est-à-dire que, sur une épreuve à puzzle, oui, ça génère du suspense, oui, c'est multidimensionnel, mais suivre un puzzle à la télévision, ce n'est pas le visuel le plus affriolant, on est un peu flou sur l'avancée, puisque c'est pas toujours très accessible pour comprendre à quel point un candidat est avancé ou pas. Alors qu'ici, avec l'orientation, on a un cocktail parfait pour une épreuve télégénique. Déjà, la progression est tout à fait visuelle et limpide. C'est-à-dire, il y a des étapes très simples, les repères, les balises, un objectif clair, le poignard. Mais le top du top, ce qui rend l'orientation vraiment spéciale, c'est que c'est un format qui met les émotions des candidats à rude épreuve. L'enjeu est vraiment grandiose, c'est-à-dire que c'est la dernière épreuve avant les poteaux. C'est éliminatoire. Il n'y a quasiment aucune marge d'erreur. Mais, contrairement aux poteaux, où là aussi il n'y a quasiment aucune marge d'erreur, c'est que les poteaux reposent sur la concentration. L'orientation nettement moins. Et c'est ce qui offre la quintessence de l'orientation, c'est que c'est un terrain qui nous permet de beaucoup voir les émotions des candidats. On peut voir à quel point ils souffrent physiquement, psychologiquement dans cette épreuve. Et c'est un des rares moments où on communie vraiment avec le candidat. C'est un des rares moments où on s'attache vraiment au candidat. Et je pense que la combinaison de tous ces éléments, c'est ce qui fait de l'orientation un incontournable de Koh-Lanta. C'est ce qui fait de l'orientation mon épreuve préférée. C'est ce qui fait de l'orientation l'épreuve préférée de Damien. Et c'est ce qui fait de l'orientation une épreuve qui plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la fanbase.
Eh bien, merci à toi pour cette analyse plus que complète et plus qu'excellente. Il y a une question qui était posée à Jérémy. Alors tout d'abord, Jérémy, j'aimerais que tu me dises ce que tu as pensé un peu de ce que vient de dire Gino. Il y avait une question de la part de Kenzo qui te demande comment... alors, si jamais tu t'es préparé à l'orientation, si jamais dans votre saison, vous êtes préparé à l'orientation, et si oui, comment?
D'accord. Eh ben alors déjà, c'est vrai que tu as fait un super, super discours sur l'orientation. Moi, j'aime pas trop dire que c'est mon épreuve favorite parce que du coup, vu que je l'ai gagnée, on a peut-être tendance à se dire que je fais ma propre apologie, en gros, que j'essaye un peu de me jeter des fleurs. Mais je pense, comme tu l'as dit, que c'est l'épreuve la plus dure de Koh-Lanta parce qu'elle mêle un peu tout. Elle mêle l'observation, le calme, l'endurance, parce que comme on le voit, ça peut être très long. Et moi, par exemple, là, vendredi dernier, quand je vois des gens qui marchent à l'épreuve d'orientation, je me dis, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est l'orientation, faut y aller, faut envoyer. Alors après, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous la même endurance et capacité physique à ce stade-là de l'aventure, pardon. Mais ouais, pour moi, c'est une épreuve qui est vraiment ultra, ultra complète, qui, finalement, j'ai envie de dire que les poteaux, c'est peut-être la plus mythique, mais une fois que tu as gagné l'orientation, que tu as passé l'épreuve des poteaux, moi, personnellement, j'avais plus de pression. Ça se voit, comme tu l'as dit justement précédemment, on voit vraiment les émotions des candidats, etc., sur cette épreuve, parce qu'en fait, c'est là où la pression allait. Je ne crois pas que les poteaux, ce soit l'épreuve où on ait trop la pression, parce qu'on y va, on reste debout, et puis une fois que c'est fini, ben voilà, l'aventure est finie. Donc c'est un peu, l'épreuve des poteaux, pour moi, c'est un peu un espèce de sas de décompression avant le retour à la vie réelle, quoi. Quand tu es sur le poteau, évidemment, tu te dis, est-ce que tu te rends compte si je reste... une minute de plus que le mec qui est à ma droite, je gagne 100 000 euros. Donc forcément, là, t'as un petit côté où tu te dis, bon, essaie d'être concentré, essaie d'être sérieux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais voilà, c'est pas l'épreuve où t'arrives, t'es transpirant, dans ta tête, ça va à 1000 à l'heure, etc. Pas du tout. C'est plus, moi, j'y suis plus allé comme si j'allais faire une épreuve d'apnée. Donc, c'est-à-dire très calme, très cool, penser à des choses positives, etc. Alors que, à tout le contraire, l'orientation, j'y suis allé en mode guerrier. J'étais à 100%. Et même physiquement, la performance que j'ai fait à l'épreuve d'orientation, je serais incapable de la refaire là aujourd'hui alors que je suis en forme et que je n'ai pas passé 31 jours sur une île déserte. Donc, c'est vrai, il y a vraiment l'adrénaline qui rentre en jeu, puissance 1000. Et même par rapport au parcours du combattant, c'est encore un niveau au-dessus parce que ça dure 40 minutes et que tu es à fond. Et pour la petite anecdote que moi, je trouve rigolote, c'est que sur l'épreuve d'orientation, comme vous l'imaginez, on est suivi par des caméramans et preneurs de son. Pour retranscrire notre course et en fait moi j'avais deux équipes parce qu'en fait les mecs n'arrivaient pas à me suivre quand je courais pour partir de la table d'orientation jusqu'à l'arbre repère et faire le chemin inverse. En fait les mecs me disaient Jérémy, tu veux pas ralentir s'il te plaît? Moi je leur dis non mais les gars, là je peux pas, c'est l'orientation, il n'y a pas moyen. Et je me rappelle que j'étais mais en transe, donc il y avait une espèce de grande montée en boue et je faisais ça en courant quoi, et les mecs ils étaient derrière, ils me disaient bon bah on se retrouve là-haut, hein, nous on t'attend ici. Donc voilà, c'est des petits trucs qui étaient très marrants et qui montrent à quel point j'étais dans un mode secondaire quoi, je n'aurais pas trouvé les mots. Et du coup j'ai même perdu je pense la question initiale qui était sur l'orientation et savoir si on s'entraîne. Oui. Alors évidemment, dans toutes les saisons, comme vous le voyez, il y a ce que j'appelle moi les clampins, donc les mecs qui arrivent là, qui sont fiers de dire « Oh, moi, Koh-Lanta, je suis venu là par hasard. Non, j'ai jamais regardé une saison, etc. » Et puis, il y a les autres qui sont passionnés, qui sont fans et qui font les choses pas à moitié. C'est-à-dire que moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond, quoi. Que ce soit un mec qui m'invite, qui me dit « Ok, fais un dîner. » ou faire un Koh-Lanta, et ben dans les deux cas, je me prépare, je fais en sorte de pas pouvoir être déçu de moi-même, en fait. Donc, je m'entraîne, et l'entraînement de Koh-Lanta, pour moi, il passe par plusieurs aspects, par tous les aspects, hein, de toute façon. Je lis des commentaires, surtout quand c'est pour engueuler Freddy. Donc ça passe par tous les aspects. Il y a le côté stratégique. Donc le côté stratégique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire revoir les saisons, voir un peu comment les personnages réagissent, est-ce qu'ils sont fiables, pas fiables, est-ce qu'ils ont trahi, pas trahi. Donc moi, avant de faire mon All-Star, j'avais regardé, j'avais re-regardé plusieurs saisons. Il y a le côté survie, parce qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas et qu'on a besoin d'apprendre. On s'appelle pas tous Théora ou Freddy. Donc, par exemple, certaines plantes, certains pièges ou certaines méthodes de pêche qu'on pourrait avoir ou non. Et la troisième partie, c'est l'endurance et la préparation physique. Ça, évidemment, je l'avais. Et quand je regarde un Koh-Lanta, justement, je m'attarde sur les personnages, mais je m'attarde surtout sur les épreuves, voir quand une équipe gagne une épreuve, voir pourquoi ils l'ont gagnée, comment ils l'ont gagnée. Donc, typiquement, je sais pas moi. Par exemple, les plans inclinés, vous savez, c'est une espèce de plan en bois en V inversé où il y a une corde au milieu et les gens doivent tenir la corde et rester le plus longtemps possible. Bah, cette épreuve, par exemple, il y a une position qui est bien précise en équerre, etc., perpendiculaire au plan, qu'il faut connaître et qu'on peut connaître et que en ayant regardé ça ou en l'ayant fait dans son jardin, quoi. Mais perso, je l'ai pas fait dans mon jardin. Mais voilà, c'est des petits points qui permettent de d'avoir des facilités, de gagner plus d'épreuves en équipe et au final de faire un plus beau Koh-Lanta, d'aller plus loin, etc. Et pour l'orientation, évidemment que je me suis entraîné, tu prends une boussole, je suis allé faire une course d'orientation, au moins être sûr de savoir où est le nord, de pouvoir bien se repérer, de le faire avec la rapidité, parce que encore une fois, tout le monde sait plus ou moins se servir d'une boussole en arrivant à l'orientation, et comme vous le voyez, toutes les saisons, on est tellement, tellement sous adrénaline, sous pression, que il y a beaucoup de personnes qui s'en mêlent les pinceaux, qui font un peu n'importe quoi et qui savent même plus servir d'une boussole, qui savent plus où est le nord, comment y aller, etc. On l'a encore vu avec Moussa cette année. Moussa qui sait servir d'une boussole puisqu'il avait déjà été au poteau. Et pourtant, là, il va à l'inverse de ce qu'il faut. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur la préparation à l'orientation que j'ai pu faire et que les candidats peuvent faire.
Une petite question pour Jérémy, une question qui a été posée dans le chat d'ailleurs. Je voulais avoir ton avis, toi qui as fait l'orientation, c'est intéressant, par rapport au changement de règles de cette année, au niveau des balises. Maintenant, les balises étaient masquées avec les couleurs, etc., alors que non, avant, elles étaient complètement ouvertes, et du coup, il y avait une possibilité de les mémoriser. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui peut changer vraiment l'épreuve, ou est-ce que c'est juste un peu secondaire?
Alors, pour moi, c'est pas du tout secondaire, parce que je sais qu'il y a les deux écoles. Il y a l'école des gens qui vont passer peut-être une minute à enregistrer les codes couleurs et qui vont gagner 10 minutes par la suite. Il y a l'autre école qui se dit, ok, je réfléchis pas, je fonce, je cherche mon arbre. 10 minutes, c'est quoi dans une orientation, c'est rien du tout. Je garde mon esprit ouvert pour autre chose. Moi, c'est ce que j'ai fait, donc je me suis pas du tout dit que j'allais enregistrer ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, pour moi, ça c'est trop bien, parce que pour moi, c'est un avantage. Moi, j'avais plus misé l'orientation sur la physique et sur la concentration que sur la réflexion. Donc, 100%. Après, je pense que c'était un petit côté. Justement, tout à l'heure, vous parliez du fait que l'orientation, c'est pour les fans de stratégie, c'est pas la meilleure des épreuves. Ça a ajouté un petit côté stratégie, je trouve. Qui était vraiment pas dégueu, c'est-à-dire que si par exemple deux personnes, c'est déjà arrivé dans une saison, je sais plus laquelle, deux personnes avaient trouvé le repère plus ou moins en même temps, il y en a un qui avait enregistré pas l'autre, et du coup ça avait permis à cette personne de gagner avant l'autre. Ça ajoutait ce petit côté stratégique que je trouvais bon. Par contre moi, honnêtement, quand j'ai vu ça vendredi à la télé, je me suis dit putain, yes, génial, trop bien, parce que du coup c'est un avantage que les autres pourraient avoir sur moi si jamais je fais une prochaine orientation, qu'ils n'auront pas. Par contre, pour le téléspectateur, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant d'avoir fait ça.
Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les candidats qui sont tellement stressés, qui perdent la maîtrise de la boussole, on peut dire que ces candidats ont perdu le nord.
Ouais.
On va pouvoir passer...
Sans transition.
On va pouvoir passer... Alors non, je vais d'abord demander l'avis de Damien et Freeze sur ce qui a pu être dit sur l'orientation. Freeze, par exemple.
Moi je rejoins pas mal l'analyse de Gino sur l'épreuve. Je suis assez fan aussi. Je ne sais pas si c'est l'épreuve que je préfère. C'est clairement une de celles qui est le plus intéressante parce qu'il y a plein de paramètres, effectivement. La chance, le sportif, le côté stratège, même si c'est pas forcément le plus important, mais c'est une épreuve qui marche systématiquement. que les candidats soient bons ou pas bons dans l'épreuve, d'ailleurs, et c'est ça qui est fort. Cette année, c'était quand même pas incroyable en termes de capacité, on va dire. Et pourtant, ça marche quand même, et c'est une épreuve qui est fun à regarder. Donc, je ne vais pas avoir venir d'une mauvaise épreuve d'orientation, parce que même quand elles sont pas bonnes, elles ont quand même un intérêt. Donc, effectivement, c'est une épreuve qui marche très bien.
Très bien. Damien ?
Bah, en fait, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter de ce qui a été dit auparavant par Gino, par Fritz, quoi, et par Jérémy, parce que c'est, ouais, tout est dit, c'est l'épreuve télégénique par excellence, c'est l'épreuve où il faut de l'endurance, il faut un cerveau, il faut de la concentration, et c'est l'épreuve peut-être où il peut y avoir le plus de suspense, mais un suspense, c'est-à-dire peut-être un peu plus profond plutôt que dans une épreuve purement sportive comme peut être le parcours du combattant. Parce que là, vraiment, c'est une sorte de guerre des nerfs. Et c'est vraiment cet aspect-là qui me plaît le plus. Et ouais, c'est vraiment un moment de la saison que j'attends toujours à chaque fois avec grande impatience.
On va passer au sujet que tu vas nous présenter. C'est le sujet du montage. Le montage de la saison. Alors, on a déjà un peu reparlé, mais on va essayer de brosser un bilan un peu plus poussé, un peu plus global de la présentation du jeu par les monteurs. Et Damien dressera également un petit bilan sur les aventures de Moussa et Alexandra. Damien, c'est à toi.
Bah, Moussa et Alexandra, les deux grands perdants de l'épreuve d'orientation. Bon, Alexandra qui a été évacuée de manière médicale, je vais d'abord me focaliser sur Alexandra. La semaine dernière, Clément l'avait défendue, mais plutôt bien d'ailleurs, parce que Clément aime beaucoup les râleuses. Mais j'avais dit justement que on voyait au montage Alexandra râler énormément, mais jamais personne lui reprochait, en fait, clairement. Juste à un moment, bon, Nawal qui prend Inès au lieu d'Alexandra parce qu'elle avait pris son courrier, bon, elle l'avait bien pris, tout ça, mais... Et c'est pour ça que j'ai pas compris le montage d'Alexandra. C'est que... On l'a fait passer vraiment pour une méchante, comme beaucoup de candidats, de nouveaux candidats, hein, tous sauf Nawal, quasiment, ils ont eu un montage où ils passent un peu pour des branquignoles. Et là, la voir partir comme ça... Enfin, ça aurait pu être une élimination un peu tragique, il y aurait pu avoir un petit peu d'émotion. Là, c'était, on la voit, donc limite, c'est quoi, de faire une chute de tension monumentale, et c'est, on se faisait Osef, quoi, on s'en fout, dire, ah, elle part, bon, tant pis, puis, bye bye. Et ça m'a pas mal dérangé parce qu'Alexandra, voilà, elle avait toute sa place aussi dans sa saison, elle était pas mauvaise en épreuve, elle était sociale, bon, avec son équipe, c'est sûr, mais. Elle n'était pas mauvaise, elle avait sa place, quoi. Et l'avoir invisibilisée comme ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Parce que je pense que c'est une candidate, bon, qui apparemment a l'air d'être quelqu'un plutôt introverti, donc il ne va pas forcément donner beaucoup face caméra et tout, ça, on peut se comprendre, c'est selon le caractère de chacun. Mais ah, je sais pas, j'aurais aimé voir plus. Et bon, ça rejoint de toute manière le problème de cette saison, qui est un montage extrêmement partial en faveur des héros et que les autres sont un petit peu des faire-valoir. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc Alexandra, j'étais quand même triste qu'elle part, parce que vraiment c'est la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta qu'une personne part sous évacuation médicale à l'orientation, et que voilà, qu'elle avait pas démérité, qu'elle avait crapahuté déjà pendant 3-4 heures, qu'elle était à bout de force. Et non, il y aurait pu avoir peut-être un côté un peu plus tragique à son élimination. Après, faut pas oublier, au niveau des votes, Alexandra a quand même survécu à un double vote, contre elle, qui était au binôme. Que, bon, voilà, c'est qu'elle avait quand même un bon social, puisque elle a été un petit peu visée par les votes, mais non plus être une cible comme l'a été Eric, par exemple. Donc, elle était visée, mais pas trop non plus. Non, c'est une candidate qui aurait mérité qu'on se penche davantage sur elle. Donc, voilà pour Alexandra. Moussa. Et Moussa, pour moi, on le revoit un petit peu plus posé que dans... Enfin, 2003, ça commence à faire longtemps. Donc, voilà, j'ai pas trop de soumis. Puis bon, il avait 21 ans à l'époque. Donc, voilà, je vais plutôt me baser sur 2012. En 2012, Moussa, on le voit être extrêmement revanchard, rancunier, notamment vers Maud, on se rappelle bien. Et là, cette année, on le sentait plus posé, plus c'était à la fois un petit peu il chaperonnait un petit peu l'alliance des filles jaunes, et en même temps, il les verrouillait au niveau de Claude. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il était en alliance avec Claude et il était hors de question qu'on le vise. Ce qui était bon, c'est pas le jeu le plus spectaculaire, mais ça a marché. Et Moussa, Freeze l'avait dit dans un des tout premiers épisodes, et c'était très bien dit, c'est que Moussa, on a. Ah eh oui, Freeze. Eh oui.
Ouais, ça m'arrive.
Ça t'arrive, ouais. Et ouais, donc Moussa, c'est le seul joueur dont on a limite oublié qu'il était un héros. Que bon, T et Claude, bon, ils sont au-dessus, bon voilà, ça on l'a assez dit. Mais Moussa, justement, était intéressant, il était pas désagréable, mais on l'a vu beaucoup plus s'agacer et s'énerver lors de l'orientation. Enfin, pas de l'orientation, oui, mais de la phase après la réunification. Et on l'entend dans ses travers, c'est dès que la situation lui échappe un petit peu, il va s'énerver, il va être un peu râleur, un peu rancunier. C'est un petit peu comme ça, son défaut au niveau social. Et ouais, et surtout, c'est que là, on le voit, c'est par exemple sur les épreuves. Moussa, c'est un colosse, c'est un sacré gabarit. Et plusieurs fois, même sur les épreuves, il était bien placé. Sans pour autant, il n'en a pas gagné une seule, je crois. Donc, enfin, pour voilà, Moussa, pareil sur l'orientation, je pense que c'est aussi le fait déjà qu'il était paumé, d'une, et de deux, le fait qu'il soit énervé, que dans le feu de l'action, il ait confondu le nord et le sud, et que du coup, ça a permis à Nawel de trouver son poignard. C'est voilà, c'est un amas comme ça de petites choses qui a fait qu'il a perdu, qu'il a été éliminé à l'orientation. Mais voilà, Moussa, bon, je trouve ça toujours un petit peu dommage qu'il ait été autant verrouillé avec Claude. Mais bon, voilà, Moussa, pour moi, je pense qu'il a fait un troisième Koh-Lanta très, très, très honorable. Excellent, même. Bon, voilà, s'il a eu un bon jeu pour Koh-Lanta, moi, je dis pas spectaculaire, mais efficace. Et non, voilà, Moussa et Alexandra, pour moi, ouais, c'est vraiment de plus Moussa quand même, mais Moussa a fait un très bon jeu, Alexandra, et c'est dommage qu'on l'ait vraiment si peu vu, quoi. Et qu'on garde d'elle l'image d'une râleuse, alors que je pense qu'elle est bien plus que ça, qu'elle est bien plus complexe que ça. Voilà.
Si je peux me permettre sur Moussa,
oui.
J'ai trouvé son jeu extraordinaire, tout simplement parce que Claude était sous les ordres de Moussa, et avoir Claude sous ses ordres, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc quand moi j'ai vu Claude qui se faisait, entre guillemets, balader par Moussa, tu votes ci, tu votes ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça, je me suis dit, bordel quoi, le mec, il pèse sacrément dans le game, et j'ai été très impressionné de lui juste pour ça, le fait qu'il ait muselé en fait Claude, et que Claude n'ait pas été le centre d'attention et le centre de toute la tribu, que ce soit vraiment Moussa qui a dominé tout ça. Moi, dans ce sens là je l'ai trouvé monstrueux sur cette saison.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Je vais demander l'avis à Gino, tiens.
Alors sur les sortants, alors je suis d'accord avec Damien, je trouve que le jeu de Moussa quand même était pas mal sous-estimé cette saison, peut-être qu'on l'a sous-estimé justement parce qu'on s'est rendu compte que son montage n'était pas bon du tout. Par contre, c'est que il a pris le rôle de grand frère des jaunes, mais avec une vitesse hallucinante, alors qu'on a vu que Claude et Théora ont été beaucoup moins bien accueillis chez les rouges. Après, peut-être que c'est lié au fait que Ahmad était beaucoup plus agressif que les personnes qui ont pris en charge la stratégie chez les jaunes, mais c'est quand même quelque chose à souligner. Il s'est très vite trouvé une bonne alliance pour faire un F4 avec les filles, et une alliance de F4 dans Koh-Lanta, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. Après, peut-être qu'il y a une limite à cette alliance de F4, c'est que les filles sont probablement plus proches entre elles qu'elles ne le sont avec Moussa. Enfin, c'est l'observation qu'on a en voyant le montage, peut-être que si on avait Moussa, peut-être que lui nous dirait non, vous inquiétez pas, j'étais largement au-dessus. Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Et l'autre limite qu'il y a à s'allier avec des filles uniquement pour le F4, c'est que sur le poteau, en règle générale, les femmes sont quand même légèrement avantagées, de par la taille des poteaux qui est quand même assez favorable aux candidats qui ont de plus petits pieds, donc en règle générale aux femmes. Ensuite, une autre chose qui est très bonne dans son jeu, c'est que depuis la réunification, il n'y a pas un moment où il a été ciblé. Il a été tout à fait tranquille du début à la fin. Le petit regret que j'ai en parlant de son jeu depuis la réunification, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas toujours assumé ses choix. C'est-à-dire que, par exemple, il n'a pas voté contre Ahmad, il n'a pas voté contre Sam. Alors que, clairement, il était avec la majorité dans ces deux votes-là, il n'a juste pas voulu être celui qui a tenu le poignard. Alors peut-être que d'un terme de point de vue du jeu social, ils pensent que ça a mieux marché. Bon, dans la mesure où les deux ont donné leur vote noir à Teyura, je pense pas que ça ait marché. Mais je trouve vraiment que c'est dommage qu'il n'ait pas assumé ces choix-là alors qu'il avait quand même une bonne position de contrôle et que ben il avait quand même des raisons de le faire. C'est que Ahmad, c'est un stratège, faut pas lui donner trop d'espace. Et Sam, non seulement c'était une menace, mais en plus il s'était quand même plus ou moins grillé auprès de ses trois alliés que sont les filles de la tribu jaune. Et bon, ça on en a déjà pas. Damien en a déjà parlé. C'est vrai que son tempérament n'a pas aidé son jeu social malheureusement, mais grosso modo, je pense vraiment que Moussa a fait une belle saison. Concernant Alexandra, je rejoins tout ce qu'a dit Damien, c'est que je comprends pas du tout pourquoi on l'a montée comme ça. C'est que avec son abandon à l'orientation, enfin son abandon médical à l'orientation, qui est vraiment une première dans l'histoire du jeu, il y avait de quoi faire une histoire très émouvante autour d'elle. Et tout ce qu'on retient d'elle, c'est que elle a encore plus le seum que Thibaut Courtois, quoi. Donc vraiment, je ne comprends pas son montage.
Bah c'est vrai que ça a été dur pour elle, hein, parce que je sais qu'elle a été, du montage, on la voit beaucoup se plaindre, de rager entre guillemets sur Claude gagne tout, Théora gagne tout, machin. Moi j'en ai marre. Même à l'orientation, on la voit peu, et les moments où on la voit, c'est genre Claude il commence à m'agacer, Claude dit ceci, parle pas Claude, je sais plus ce qu'elle lui dit à un moment donné, détends-toi ou calme-toi, machin.
Arrête de gueuler
Claude. Et ensuite on la voit sortir, pas de gros portraits, rien. Enfin, c'est vraiment, pour moi, j'ai vraiment vécu ça comme allez hop, ça dégage, quoi. Même la prod a eu la flemme de lui faire un joli montage de sortie, petite vue drone avec un mannequin pour faire croire que c'est elle, et hop, Alexandra évacuée, fin, et plus personne parlera d'Alexandra. Donc à sa place, j'aurais été un peu dégoûté du montage. Après, les téléspectateurs, bien sûr, on adore regarder et se dire bien fait, chez machin, mais malheureusement là, je pense pas que ce soit la façon. Enfin, qu'elle ait les mêmes propos, et je pense que ça va être un peu compliqué pour elle d'avoir revu ce commentaire.
Oui, c'est surtout quand on te présente comme ça et que du coup les gens te jugent en fonction de ce qu'ils voient, donc ils te voient en train de râler tout le temps, donc ils se disent que t'es une rageuse, ouais. Et du coup ils vont te le faire remarquer, pas de la meilleure des manières pour certains. Ouais. Et ouais, du coup ça peut clairement te dégoûter, non seulement de ta saison, mais te dégoûter du programme.
Carrément. Bien sûr. Bah, tu vois, pour faire un petit parallèle avec Inès, qui a aussi pas une très bonne image sur ce Koh-Lanta, alors certes, qui trouve son couteau par hasard, donc moi c'est ce que j'ai dit, j'ai regardé l'épisode avec Candice, qui a fait aussi mes deux saisons avec moi de Koh-Lanta. Ce qui est un peu dommage qu'elle trouve par hasard, c'est qu'elle aura pas ce petit truc où elle peut dire ouais, moi j'ai gagné l'orientation, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que elle l'aura trouvé un peu par hasard, donc quoi qu'il arrive, ça va manquer un peu de... Comment dire, ça va manquer un peu de brillance, un peu de fierté, ce Koh-Lanta, tu vois. Je pense que tu sortes son... Ouais, voilà, de panache, de prestige. Voilà, de prestige. Je pense qu'elle sort son Koh-Lanta. Alors certes, elle a l'air très fière, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un petit arrière-goût amer d'avoir trouvé ce poignard un peu au pif devant une Nawal qui était quasiment, qui l'avait quasiment trouvé. Et oui, pardon, pour faire le parallèle avec Alexandra, au moins Inès, sur ce dernier épisode-là, elle a une... Moi, en tout cas, c'est mon impression. Je trouve qu'elle a une image qui s'est carrément redorée. On a eu l'histoire avec ses parents, donc on s'attache un peu plus au personnage. On voit un autre visage de Inès Gueulard et Inès entre guillemets collée à Moussa. Et j'ai commencé à l'apprécier. Donc, je pense que l'image négative qu'on a eue d'elle toute la saison va s'effacer et que dans nos mémoires, ça restera un peu plus positif. Et je pense qu'au contraire, Alexandra, qui a eu une image de négative toute la saison, va partir avec cette image négative et cette image de. Entre guillemets, de faible qui tombe dans les pommes à l'orientation. Alors, c'est pas faible du tout, hein, mais c'est l'image que je pense que les gens vont s'en faire. Et voilà, donc je pense que Inès, elle a redoré un peu son image grâce à ce dernier épisode, ce qui n'est pas le cas d'Alexandra.
Bah, pareil, pour, moi aussi, c'est sur Inès. Mais je suis content justement qu'on voit autre chose parce que moi, les commentaires FC Bronzette, c'est les fesses d'Inès ou les. Ou quoi d'autre aussi, genre elle va faire les anges, j'en peux plus, putain, c'est une candidate qui est quand même intéressante et on la réduit toujours à une espèce de belle plante qui est juste là pour aller sur énergie 12. Enfin, ça m'agace énormément. Et je alors que c'est quelqu'un justement qui a l'air d'avoir un vécu complexe, qui réagissait et surtout c'était, je pense, une bonne candidate, voilà, qui aurait mérité, elle aussi, qu'on la montre de manière un petit peu plus complexe, plutôt que cette espèce d'image voilà, de la pseudo-bimbo que je suis sûr qu'elle n'est pas, en plus. Non, voilà, ça c'est un truc qui m'a un peu agacé cette saison, et donc du coup je suis d'accord avec toi Jérémy, je suis content du coup que son portrait ait un petit peu plus de profondeur.
Son portrait devient positif uniquement parce qu'elle est en finale et qu'il faut que les trois finalistes aient des choses positives au niveau des téléspectateurs. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que j'aurais bien aimé voir comment ils auraient rendu justement l'aventure d'Alexandra positive. Parce que comme tu disais Damien, depuis le début c'est quand même un peu de l'acharnement contre elle, la pauvre. Sûrement des défauts, mais peut-être pas autant qu'on en montre. Et là, Inès d'un coup devient une candidate avec mal de choses à faire valoir, etc. Alors qu'effectivement, toute la saison pas forcément été montré. Je dis pas que c'est pas le cas, parce qu'on évidemment pas toutes les infos. Mais bon, l'image d'Inès sur la saison, c'est pas hyper positif. Et là, parce qu'elle est en finale avec un peu de ça devient très positif. Ce qui est normal, il faut faire valoir les finalistes, évidemment. Du coup, on peut quand même s'interroger sur la différence de traitement entre deux candidates qui ont été un peu sur le même traitement, même si c'était négatif quand même pour Alexandra. Et je suis d'accord avec toi là aussi. Je trouve que le traitement est un peu, je vais pas dire dégueulasse, mais je sais pas ce qu'elle va retenir, elle, de son aventure. J'ai du positif. En tout cas, son traitement médiatique, un peu ce qu'on disait avec Ahmad et avec Régis, elle a pas été épargnée et que ça ira, etc. Mais elle en prend quand même pas mal, et peut-être pour grand chose quand même.
Je voudrais juste, puisqu'on a parlé du montage, je voudrais juste quand même exprimer un petit coup de gueule par rapport au montage du début d'épisode. C'est que au début de l'épisode, donc bon, on a eu des flashbacks qui ont pourri tout le début de l'épisode, vu que sur la première demi-heure, on a eu 5 minutes de contenu inédit. Et le problème, c'est que sur ces 5 minutes de contenu inédit, on a eu 2 minutes de chasse au registre. C'est-à-dire que on nous a quand même vendu à nouveau l'histoire comme quoi Régis a trahi Jessica, en montrant bien à l'appui les scènes où Régis et Jessica ont pactisé, en occultant une nouvelle fois l'incident du feu qui a été relayé lors des interviews postérieures à la sortie de Régis. Et disons que, bon, en temps normal, ça aurait été un peu salaud de la part de la prod, mais pas encore. Mais dans le contexte actuel, c'est-à-dire, je rappelle le contexte, c'est que Régis a reçu personnellement des menaces par rapport au fois où il a trahi Jessica, justement. Il y a aussi le contexte que la semaine dernière, on a appris la mort d'une candidate de télé-réalité japonaise, Anna Kimura, qui avait bénéficié d'un montage absolument odieux sur Terrace House, c'est-à-dire une série de télé-réalité qui est diffusée sur Netflix. Et disons que même avec cette actualité-là, avec le fait que Régis ait reçu des menaces, et en prenant en compte que maintenant on est déconfiné, donc on peut remonter, on n'a pas... d'ailleurs, le fait qu'il y ait toutes ces vignettes, ça montre bien qu'on a pu remonter l'épisode. Je comprends vraiment pas, j'ai l'impression que la prod cherche la merde là-dessus.
C'est vrai que c'est un peu insupportable de leur part, parce qu'ils sont au courant de ce qui peut se passer un peu partout dans le globe, ils savent ce qui s'est passé en France, mais ils continuent et ils insistent, quoi.
Parce que ça amène pas grand chose à ce qu'on sait déjà. C'est un peu là aussi acharnement, comme on disait tout à l'heure. La séquence est clairement pas indispensable, quoi.
Bon, pour moi, ils essayent entre le trash parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'un string en épisode 1 pour attirer les gens. Ils ont besoin d'un mec qui sait pas nager en épisode 1 pour attirer les gens. Ils ont besoin d'un mec qui éteint le feu en épisode 1. Et pour autant, je pense que c'est pas l'image qu'ils veulent véhiculer de Koh-Lanta. Donc, je pense qu'ils ont un petit curseur qu'ils essayent de mettre, entre guillemets, cette espèce de piment, je vais l'appeler un petit piment négatif, quoi. Ils essayent d'en avoir des petites pincées. Et voilà. Bah, pour moi, c'est nécessaire pour que le KL fasse parler de lui et fasse les audiences qu'il fait, même si le confinement a été vraiment, je pense, hyper bénéfique pour cette saison. Et du coup, ils essayent de jongler, voilà, entre... Ils vendent un petit peu une part de leur âme au diable qui est un peu nécessaire, je pense, pour qu'ils puissent continuer à avoir les finances et les téléspectateurs pour les futures saisons.
D'ailleurs, très bonne info, le confinement, mais selon les chiffres des audiences du dernier épisode, les audiences étaient en baisse suite au déconfinement. Donc ça montre bien que c'est surtout le confinement qui a aidé aux audiences.
Une petite nuance là-dessus, la baisse n'est que d'environ 100 000 téléspectateurs alors que l'épisode est plus long. Donc, sachant que la part de marché est la deuxième meilleure de la saison... non, je ne retiendrai pas trop cet épisode-là comme une baisse d'audience.
Pour moi, de toute façon, les gens ont eu le temps d'accrocher à la saison. Koh-Lanta, surtout cette saison, quand tu commences et que tu commences à te prendre au jeu et que tu vois que tout le monde en parle, tu as tendance à vouloir regarder la suite et regarder la suite et regarder la suite. Donc je pense que les gens sont accrochés et qu'ils vont forcément arriver aller jusqu'au bout, quoi.
On va pouvoir passer à l'ultime sujet. Nous avons parlé des perdants, on va parler de ceux qui vont accéder à la terrible épreuve des poteaux. Vous connaissez le principe, vous êtes debout sur un poteau, vous tombez, vous perdez, vous tombez pas, vous gagnez. Et c'est Freeze qui va nous présenter ses trois finalistes que sont Nawal, Inès et Claude. Il va présenter leurs points forts, mais également leurs points faibles. Freeze, c'est à toi.
Oui, tout à fait, Thierry. Donc je vais commencer par, par Claude, mais je ne vais pas m'éterniser parce qu'on en a déjà beaucoup parlé sur les derniers épisodes. Déjà, le point sur lequel on peut être d'accord, c'est qu'a priori, si Claude va devant le jury final, quand même de grandes, grandes chances qu'il soit gagnant. Ça va être facile contre Inès, si c'est le cas. Peut-être un peu moins facile contre Nawel, mais a priori, il peut quand même avoir ses chances. Donc pour lui, a priori, en tout cas, s'il veut pour une fois gagner le jeu, ça réside par les poteaux et par une victoire sur les poteaux. Après, au niveau du CV, là aussi, c'est extrêmement positif. Il y a quasiment que des points forts. Déjà, sa capacité en épreuve, même si nous, pas des fervents défenseurs de cet aspect-là, jury, c'est toujours un aspect qui compte beaucoup. Et de ce point de vue-là, on peut rien dire sur son aventure. Il a été incroyable. On a gagné beaucoup. Il a été présent sur toutes. Il a vraiment eu un mental. On l'a vu encore sur l'orientation. Donc, si en plus, c'est lui qui remporte les poteaux, à mon avis, ça fera une ligne de plus sur le CV. Donc, ça, c'est impressionnant. Et après, pour le reste, au niveau plus de l'aventure, pas grand-chose de négatif. Il a été en contrôle. Contrôle de Moussa, qui était lui-même en contrôle de son équipe, au final. Donc, il a été souvent un peu en danger, mais jamais vraiment concrètement menacé non plus. Plutôt à mettre à son crédit. Donc, voilà, ça fait beaucoup. On rajoute à ça quand même un gros, gros charisme, une grosse personnalité, du répondant sûrement sur les dernières questions du jury. Donc, bon, a priori, il est plutôt partant comme un vainqueur de la finale. Encore faut-il qu'il y aille. Point négatif, moi j'ai juste noté, on en a déjà aussi parlé, donc je ne vais pas m'éterniser encore une fois, il y a quand même un petit côté un peu donneur de leçons et hautain saison qui peut lui valoir des points. Notamment, on en parlait la semaine dernière avec Régis, ça a été aussi un peu le cas avec Folien, ça a été le cas un peu avec Ahmad. Pas des gens qui le détestent, mais c'est des gens qui peuvent peut-être voter pour son adversaire parce qu'il y a eu des petites discussions un peu houleuses et des fois un peu méprisantes, même si le terme est un peu fort. Ça peut être un élément négatif, mais de mon point de vue, ça ne sera pas suffisamment négatif pour perdre ça qui que ce soit. Là pour Claude. Après, concernant Nawel, je pense que c'est quand même la grosse favorite, notamment des poteaux, mais généralement du jeu. Si elle perd contre Inès, enfin si Inès gagne les poteaux, Nawel est quasiment assurée d'être en finale. Si Nawel gagne les poteaux, elle risque de prendre Inès et de gagner. Elle peut même éventuellement espérer être Claude. Donc, bon, quand même plutôt gagner qu'à perdre dans tout ça. Elle aussi, son CV est plutôt solide. Ses preuves, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Elle a été très présente, très forte. Elle a un gros mental. Elle a un vrai profil de battante, de guerrière qui plaît beaucoup en général aux jurés, qui peut clairement valoriser. Et puis, de manière générale, son social, même s'il est loin d'être parfait, est quand même très, très positif. Il n'est pas en conflit avec qui que ce soit, a priori, en tout cas de ce qu'on a vu. Elle est globalement très appréciée, notamment par les jaunes, évidemment, mais même par certains rouges, d'autant plus si c'est Claude en face. Donc, c'est clairement la favorite de trois candidats. Après, en point faible pour Nawel, peut-être qu'on peut lui reprocher ou que le jury lui reprochera son manque de prise de décision. Dans les éliminations. De manière générale, un côté un peu « faites ce que je dis et pas ce que je fais » qui peut peut-être un petit peu passer. C'est vraiment pour être un peu tatillon. Parce qu'elle n'est pas, comme je disais, elle n'est pas vraiment rentrée en conflit là-dessus. Donc, ça peut peut-être être un élément qui peut lui être reproché. Enfin, concernant Inès, je vais essayer de pas être trop négatif. Si elle est là, c'est que d'une certaine manière, sa place est légitime. Techniquement, je pense qu'elle est quasiment assurée d'être face au jury final, qu'elle a quasiment aucune chance de gagner, que ça soit face à Nawel ou face à Claude. C'est une candidate sympathique, qui a un profil un peu atypique, plaire à certains jurés, je pense. C'est justement venu de nulle part, un peu pas favori, justement perdant, a déjà vu sur certains conseils décisifs, peut faire gagner, parce que justement ça fait un peu pleurer dans les chaumières, et il y a un côté « vas-y ma petite ». Et je pense que ça sera clairement pas suffisant, parce que et son tempérament, elle aussi, elle a souvent été en conflit avec pas mal de gens, elle a énervé beaucoup. Je pense que son FC bronzette, même si le terme est complètement nul, il y a aussi un côté comme ça dans le jury, avec des gens comme Eric, par exemple, qui ne seront certainement pas Inès parce que elle n'a pas assez donné pour le camp, etc. etc. Donc, clairement, pas grand-chose de négatif en soi, mais il y a surtout assez de positif en comparaison avec les deux autres, que ça serait une énorme surprise, après tout. Ça serait une énorme surprise de l'avoir remporté Koh-Lanta cette année. Voilà. Les trois candidats.
Merci à toi, Freeze, pour cette analyse.
Pas de quoi.
Gino, tiens ton avis, s'il te plaît.
Alors, sur les trois finalistes, je pense que je ne vais pas inventer l'eau chaude en disant que, malheureusement pour elle, Inès n'a aucune chance. Bon, déjà, rien que sur le montage, mais aussi, c'est que je ne vois pas trop quels arguments elle pourrait mettre en avant. C'est-à-dire que, même si, en effet, le fait que quelqu'un qui a un profil quand même, comme elle réussisse à aller en finale, c'est vrai que c'est très fort, mais ce n'est pas un argument c'est pas un argument devant le jury. C'est-à-dire que, sur le plan du jeu social, on a bien pu voir qu'elle était très impulsive, et je pense que vivre 39 jours avec quelqu'un, enfin, pas 39 jours, 32, vu que c'est une saison spéciale, vivre 32 jours avec quelqu'un de très impulsif, sachant qu'on meurt de faim, ça doit être quand même assez pénible. Je dis pas qu'il est assez pénible, attention, mais je pense que on peut plus facilement retenir ça contre elle que contre quelqu'un comme Nawel. Ensuite, disons que en termes d'épreuves, vu que forcément la mythologie de Koh-Lanta évoque beaucoup les épreuves, disons que même si elle gagnait les poteaux, ça serait quand même un CV qui est pas très bien rempli, vu que Nawel a gagné plusieurs immunités. Elle a eu son poignard par hasard. Claude, on n'en parle même pas, il a brisé tous les records cette saison. Disons que je pense qu'Inès n'a vraiment pas beaucoup d'arguments en sa faveur, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'elle a mal joué, mais ça veut dire qu'il y a des histoires plus intéressantes que la sienne, malheureusement. Ensuite, en ce qui concerne Nawel et Claude, là, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à analyser. C'est-à-dire qu'en termes de montage, Claude a un montage plus héroïque. Mais d'un autre côté, le fait que Nawel soit limite la seule nouvelle candidate à avoir un montage vraiment favorable, on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est pas innocent. Donc, c'est vrai que les deux ont des chances très séduisantes au montage. Après, si jamais ils se retrouvaient confrontés l'un à l'autre devant le jury, là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, vu que les deux ont un bon montage, on ne peut pas se baser là-dessus. Et ensuite, il faut vraiment voir en spéculant sur qui va voter quoi. Et là, je dirais quand même... Et là, on est quand même sur une situation où ça semble très serré. C'est-à-dire que on sait que Teyura, Sam et Jessica vont voter pour Claude à 100%. On a de bonnes raisons de penser qu'Amad va voter pour Claude, puisque il a dit plusieurs fois en interview que qu'il aimerait bien qu'Aero gagne parce que ça prouverait que sa stratégie était la bonne. De l'autre côté, on sait que les filles jaunes, donc on sait que Alexandra, celle d'entre Nawel et que Alexandra Inès va voter pour Nawel. On sait que on se doute bien que Charlotte va voter pour Nawel. Donc, devant le jury, une finale entre Claude et Nawel, ça serait assez serré, puisque, en ce qui concerne Claude, on sait que Jessica, on sait que Teyura, on sait que Sam vont voter pour lui. On a de bonnes raisons de penser qu'Amad va voter pour lui, puisqu'en interview, il a bien dit que il voudrait qu'un héros gagne pour prouver que sa vision de la stratégie était juste. On se doute bien que Eric a de bonnes chances de voter pour lui. Donc ça lui ferait déjà 5 votes. De l'autre côté, Nawel aurait le vote d'Inès à coup sûr, le vote d'Alexandra à coup sûr, celui de Charlotte quasiment à coup sûr, et disons que celui de Régis, évidemment, puisque je pense que Régis aurait peut-être pu voter pour Claude s'il n'y avait pas eu son coup d'éclat du dernier épisode. Et du coup, ça donne l'impression que la décision va probablement poser déjà sur Moussa, puisque Moussa a été en alliance proche avec Nawel, mais que d'un autre côté, il a quand même l'air proche de Claude en dehors du jeu. Et elle pèse aussi, et peut-être surtout, sur Folien. Et disons que Folien n'a pas beaucoup d'éléments qui nous permettent de voir pour qui il va voter. C'est ça qui rend la perspective d'un duel entre Claude et Nawel très, très alléchante. Ceci étant dit, s'il y a un duel final entre Claude et Nawel, ça veut dire qu'il y a un des deux qui a très mal joué.
Merci à toi. Alors, voilà, je te donnerai la parole, Jérémy, juste après Freeze. Damien, pardon.
Alors, sur pour Nawel, c'est celle qui a le montage vraiment le plus positif, comme on l'a dit, hein, parmi les nouveaux. Elle a eu, elle aussi, un peu comme Claude, des leçons de morale, mais elle en rajoutait pas. Elle était, c'était juste à chaque fois. J'en voyais certains qui se plaignaient que, oui, qu'elle parlait de mérite, mais qu'elle le suivait pas. Tous les candidats font ça. Le mérite, c'est un parasol parfait, justement, pour pas trop s'en prendre. C'est une notion qu'on peut tordre dans tous les sens pour la faire coller à peu près à ce qu'on veut faire. Donc, ça, je vais pas vraiment lui reprocher. Mais c'était celle qui était battante, qui était toujours montrée de manière extrêmement positive. Je suis même pas sûr qu'elle ait eu des moments comme ça de râlerie ou, c'était, le montage la présente vraiment comme la voix de la sagesse. Et pour moi, c'est pas anodin. Pour Inès, bah du coup, on en a parlé juste avant. Inès, je la vois absolument pas gagner. Peut-être finaliste perdante. Donc voilà. Moi, évidemment, je pense, vu un petit peu ce qu'on voit, et même moi, je sais que la saison était tellement déséquilibrée en faveur des deux héros clotés, que j'aimerais quand même que Nawel gagne. Ça, c'est mon souhait. Je pense qu'une finale Nawel Claude, que ce serait serré, mais je vois quand même Nawel gagner. Donc voilà pour moi, ouais, je pense qu'on pourra voir la semaine prochaine. Allez, on va dire, je suis sûr à 60% le couronnement de Nawel et Claude. Claude, il a survolé un petit peu comme d'hab, mais c'est son moral à lui, son montré négativement. On le voit beaucoup râler et tout, donc je sais pas, je le vois pas justement. Je vois être une ce montage un petit peu de gadon de mec qui a vraiment qui s'est battu jusqu'au bout, mais qui trébuche sur la dernière marche ou. Je le vois être monté comme ça. Donc voilà, vraiment pour moi, ouais, sur Nawel, je pense qu'on tient la vainqueur de la saison, quoi.
Très bien. Alors, Jérémy, il y a une question que quelqu'un veut te poser. Alors, attends, faut que je la retrouve. C'est une question de Napoli qui te demande si le positionnement des poteaux.
L'ordre ouais. D'aller sur les poteaux.
C'est vrai.
Ouais. Eh ben écoute, en effet, c'est quand on arrive sur les poteaux, c'est un des seuls moments de l'aventure où c'est un peu organisé. On nous dit, ok, toi tu prends le poteau à droite, toi tu prends le poteau au milieu, toi tu prends le poteau à gauche. Moi je suis de droite, je pense, parce qu'on était deux garçons et une fille, donc ils voulaient la fille au milieu. De mémoire, là il y a deux filles et un garçon, je sais pas où est-ce qu'il est Claude, est-ce qu'il est au centre des poteaux, je sais plus. Mais je pense que c'est plus visuel qu'autre chose.
D'accord.
Si un garçon, des filles, etc.
Et quel serait ton pronostic, toi, pour cette saison?
Ouais. Alors moi, mais c'est marrant, j'ai pas du tout votre avis sur certains candidats. Je pense que Claude a, quoi qu'il arrive, les votes de Eric, Jessica, Théora et Sam. Donc ça, c'est fait. Et je pense que Nawel, pour moi, elle a soit gagné la saison, soit elle fait égalité. Parce que si Claude gagne, je pense qu'il prend Nawel. Tout simplement parce que dans son KL, dans le deuxième, il a pris Bertrand au lieu de prendre Maud. En gros, Maud, il gagnait 100% face à elle et Bertrand, c'était un peu plus compliqué. Il a pris Bertrand 100% au mérite. Et je lui ai posé cette question avant de partir à mon KL. Je lui ai dit, Claude, je viens de refaire ta saison. Est-ce que tu regrettes d'avoir pris Bertrand alors que tu sais aujourd'hui que tu as perdu contre lui? Et il m'a répondu, pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais. Il avait mérité, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, je pense que Claude, malgré son aspect stratégique, il a ce côté mérite et un peu égo, c'est-à-dire de rendre au plus méritant ce qu'il mérite. Et je pense qu'on l'a vu d'ailleurs dans le dernier épisode, au dernier conseil, où il donne pas son collier, où il fait un peu la leçon à Régis. C'était inutile, mais je pense qu'il a voulu rendre, sa monnaie de sa pièce. Et puis voilà, il considérait que Régis n'était pas forcément méritant, qu'il méritait une punition, il lui a fait, même si ça lui coûtait sa place. Donc je pense que sur les poteaux, ce sera pareil. Il prendra une Nahual contre qui il va peut-être, pour moi, perdre ou faire match nul, face à une Inès contre qui je pense qu'il serait ou ce serait un peu plus délicat. Et je pense que Claude face à Inès, moi je vois bien le 50-50. Ça va dépendre de Hamad, parce que Hamad, il est beaucoup plus proche d'Inès, c'est sûr. Mais Hamad, faut pas oublier qu'il est un fan de KL, qu'il est un fan de stratégie et de Survivor. Donc il est possible qu'il vote Claude, ça va dépendre de lui. Ça, c'est un peu le Dylan de notre saison, ça va être sur lui que va balancer un peu le verdict de la saison. Pour moi, si Claude gagne les poteaux, il prend Nawal. Si Nawal gagne les poteaux, elle prend Inès. Si Inès gagne les poteaux, elle prend Nawal. Donc Claude, il n'a pas d'autre choix que de gagner les poteaux. Et voilà. Et je pense aussi, comme vous tous, que Nawal gagne ce Koh-Lanta. Je la vois pas perdre face à Claude. Je pense que Hamad votera Nawal plus que pour Claude. Folien, contrairement à ce que disait, je crois que c'est Kenzo qui disait ça, Folien, pour moi, il votera jamais Claude. Je le vois au jour d'aujourd'hui, depuis le début de la saison, cracher sur Claude sur toutes les émissions et le titiller autant qu'il peut. Donc ça m'étonnerait fortement qu'il vote Claude. Ouais, mais je vois pas pourquoi il regretterait, vu que la saison c'est fini, etc. S'il a gagné, il n'y a pas trop de... Ouais, il n'y a pas trop de raisons qu'il fasse ça. Donc, pour moi, Nawal a gagné Koh-Lanta, c'est presque acté. Face à Inès, elle écrase Inès. Face à Claude, elle gagne.
Il regrette.
Et le seul cas de figure, c'est Claude gagne les poteaux, Claude prend Nawal. Claude prend Inès, et les gens votent pour Claude plus qu'Inès. Et encore, je pense que ce sera égalité, même face à Inès, qui a peut-être été un peu moins méritante. Je déteste critiquer les aventuriers de Koh-Lanta en public. Je le fais en privé, mais pas trop en public. C'est un peu la famille. Mais évidemment, si tu compares le Koh-Lanta de Claude et celui d'Inès, il y a une petite division d'écart. Mais c'est normal, hein. Claude, c'est comme le disent très bien la prod de Koh-Lanta, c'est le champion des champions. Ça l'était déjà avant. Maintenant, ça l'est incontestablement.
Ça, pour le dire, ils le disent. Oui.
Ah ouais, carrément. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est comme ça qu'ils créent les légendes. Hein. Théora, ils l'ont créé comme ça. Sam, il le crée exactement comme ça. Et comme vous le dites, je sais plus qui disait ça dans le chat. Sam, il a été extraordinaire. Il a au tir à l'arc, il est extraordinaire. Au cochon pointu, il est extraordinaire. Mais après, c'est pas ça qui fait pour moi. C'est pas assez pour faire une légende, tu vois. Il manque un peu d'humain, il manque un peu de social. Et ce qu'avait Claude, ce qu'a, je pense à d'autres grands, ce qu'a Théoura, ce qu'a Martin, voilà. Donc on attendra. Ouais, je vois dans un commentaire Jérémy qui veut pas spill Zeti. C'est tellement chiant les critiques quand on est un candidat Koh-Lanta, que quand ça vient d'un ancien, c'est encore plus chiant, et je me suis promis de jamais le faire, donc je le fais en privé, mais pas en public. Donc voilà, pour moi c'est Nawal qui gagne. Elle a le profil parfait pour gagner ce Koh-Lanta. Elle a été sympa, elle a été touchante, elle est attachante, elle est forte dans les épreuves, elle s'entend bien avec tout le monde, elle est tout le temps en train de faire des efforts, faire des trucs à droite à gauche. Je sais plus s'il l'inclut dans le FC Bronzette, mais il me semble pas. Non, voilà. Donc pour moi c'est une gagnante parfaite. Claude, ils lui font un putain de montage parce que c'est l'édition des héros, donc faut bien qu'ils justifient aussi leur truc. C'est un héros, c'est sûr, mais moi je le savais déjà avant qu'il le fasse. D'ailleurs, je disais quand j'ai appris qu'il était parti, la pire erreur ce serait de garder Claude plus de 3 jours sur Koh-Lanta. Ils ont fait cette erreur là et voilà. Claude se retrouve au poteau, c'est normal, c'est le meilleur pour moi sans aucune contestation possible.
Eh bien, merci à toi. Je vais également donner mon avis. Je pense aussi que Nawal gagnera contre Inès. Je pense que Nawal gagnera les poteaux. Voilà.
Ah ben voilà. Moi, je pense exactement au même scénario que toi.
Ça paraît le plus probable.
En espérant quand même qu'il y ait une épreuve des poteaux assez sympathique à regarder. Ouais, voilà.
Bah, il faut, ils ont une heure et demie à meubler, donc ça soit sympa. Ouais. Hein.
Eh bien, c'est sur ces tendres paroles que nous allons rendre l'antenne, chers amis. Jérémy, merci à toi d'avoir été là.
Ben, merci à vous. Je suis très content d'avoir pu intervenir. Je vous suis et vous écoute de temps en temps. Je suis sur le forum, un forum bien connu. Je ne sais pas si c'est lié à 100% avec le podcast, donc je ne vais pas le citer.
Tu peux.
Mais j'adore parler de stratégie. J'adore parler de stratégie. J'adore lire, etc. Je regarde Survivor aussi. Donc, je suis très content d'en parler parce que dans mon entourage, il n'y a personne avec qui en parler. Candice, qui est mon amoureuse depuis 3 ans, n'est pas la plus opti avec qui parler stratégie. Koh-Lanta, etc. C'est pas sa tasse de thé. Donc, je suis content de pouvoir en parler avec vous, avec toute la communauté. Et encore merci pour l'accueil. C'était très cool.
Merci à toi.
Ravi de t'avoir accueilli.
Merci à toi.
Ouais, c'est gentil. Merci.
Merci également à Frise, Gino et Damien pour être intervenus encore une fois. Vos analyses étaient très complètes, très détaillées et très pertinentes.
Merci Planck. Ouais.
Merci Planck et je tiens à dire à Jérémy que vraiment il a été un excellent intervenant et vraiment honnêtement sur les épisodes que j'ai pu faire, t'as vraiment été l'ancien candidat qui a eu comment dire l'expertise la plus intéressante. Donc vraiment merci à toi Jérémy.
Merci, gentil.
Il y en a qui vont pas être contents.
Voilà, je vais imprimer cette phrase, je vais la mettre au-dessus de lui.
Gino Fact. Voilà.
Ouais.
On se retrouve dimanche prochain, 14h, pour l'ultime podcast de la saison. À dimanche prochain, les amis. C'était Plancaster. Salut.
Salut.
Salut. Salut.